On a parlé des hommes puissants dans la revue de presse internationale. Voici un homme créatif, très créatif, Peter Sellars. Bonjour Peter Sellars. Vous êtes metteur en scène, un grand metteur en scène. Je vais vous présenter dans quelques instants pour ceux qui n'ont pas la chance de vous connaître. Mais tout d'abord, si vous êtes là, c'est parce que vous allez présenter dans quelques jours l'opéra Copernicus, Rituel de la mort. C'est un opéra de Claude Villiers et il sera tout d'abord visible à l'Espace Cardin à Paris. Ensuite, il va tourner en France, notamment au Théâtre du Capitole à Toulouse. Et puis ensuite, vous serez au Nouveau Théâtre de Montreuil. Bref, beaucoup de gens auront la chance de voir cet opéra. J'ai eu la chance, moi, d'assister à une répétition.
C'est choquant, parce que normalement, c'est complètement privé, bien sûr. Il y a des choses qu'on ne montre pas aux gens. Et il faut rester en famille dans un lieu vraiment protégé. Et donc, c'était choquant que tu étais là, mais bon.
Moi, je veux bien faire partie de votre famille. On était là avec Maïwenn Guizhou. On était très heureux. Et alors, surtout, ce que j'ai vu Peter Sellars, vous-même, en train de mettre en scène cet opéra avec les musiciens derrière, avec les chanteurs qui étaient en train donc d'apprendre leur chant, qui avaient encore leur partition, leur texte, et vous qui virevoltiez de manière extrêmement bienveillante entre ces différents protagonistes.
Oui, non, il faut que dans le four, quand même, ça chauffe et que c'est chaleureux. C'est parce que c'est un moment très délicat. C'est un moment enfin d'une certaine alchimie. Et il y a là où les choses magiques se déroulent. Et c'est une expérience à la fois découverte et vraiment défi. Et quand on propose aux gens de faire des choses très très difficiles, très complexes, c'est une atmosphère détendue. Même drôle, même calme, même aucune pression, parce que la pression, c'est déjà énorme. Et donc, il ne faut pas ajouter de pression. Le contraire, il faut que tout le monde se détende. Et on est là dans une situation où il faut rester ouvert à n'importe quoi, à tous. À les choses les plus bizarres, c'est possible. C'est possible à imaginer, c'est possible à faire entrer dans une voie, mais complètement inentendue et inimaginable. Et donc, ce côté inimaginable, il faut garder ça, il faut que les gens sont devant une situation où ils ont courage, ils ont soutien, ils ont curiosité, mais aussi, c'est pas à moi de dire... Il faut faire ça, il faut faire ça. C'est à eux, à sentir. Je crois que je veux faire ça. Et c'est ça qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 minutes. Et donc, cette atmosphère, ça doit rester léger et à la fois un grand défi. On est devant une tâche absolument impossible, trop lourde, impossible. Et bien sûr, d'être humaine, chaque jour de la vie est impossible. Donc, les impossibilités, c'est ça où on s'adresse.
Mais parce que moi, j'imaginais qu'un metteur en scène d'opéra, c'était un obsessionnel assez sévère, assez dur. Vous, quand un chanteur se plante, vous lui dites « fantastique ».
Oui, non, parce que bien sûr, il faut le soleil. Si les plantes doivent pousser, il faut le soleil. Il faut le soleil, il faut de l'eau, il faut une atmosphère, un temps très chaleureux et où on peut que inviter les gens. Et les gens acceptent l'invitation ou pas. Mais l'invitation doit être irrésistible et que on a envie de l'accepter. Dans ce cas-là, j'ai énormément de chance parce que je travaille avec deux groupes incroyables. L'Instant Donné, c'est un groupe instrumental ici en France qui s'en occupe surtout de la musique contemporaine avec un esprit, il travaille sans chef et c'est un esprit communal. Et chacun écoute les autres, critique les autres, donne les réponses, mais on est surtout intéressé aux autres. Et Également, le groupe américain Roomful of Teeth, c'est un groupe vocal. Également, 8. Également, l'un qui l'écoute l'autre. C'est complètement un travail commun. Et les deux groupes ont l'habitude de cette... C'est une façon, une éthique, si je peux le dire, une qualité de l'écoute, pas simplement de lecture. Et cette écoute qui est si profonde et cette générosité de l'esprit, ça donne beaucoup, ça crée une richesse, ça crée quelque chose qui est déjà, qui vibre et personne est seul, personne est isolé, personne est exposé. Tout le monde est vraiment, sont bien dans le corps des autres.
Pour vous présenter, Peter Sellars, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, et vous êtes l'un des plus grands metteurs en scène au monde. Vous avez mis en scène Don Giovanni de Mozart, Les Noces de Figaro, Le Così fan tutte. Vous avez également mis en scène Les Perses d'Eschyle. Vous avez accompagné plusieurs opéras du compositeur John Adams, notamment Nixon in China ou aussi Dr. Atomic. Vous avez mis des opéras en scène un peu partout dans le monde. Vous êtes au confluent de différentes cultures. Vous naviguez aussi bien dans les langues, on l'entend avec votre français, que dans les cultures extra-européennes, avec un tropisme fort pour le bouddhisme et des cultures assez éloignées de l'Occident où vous êtes né. Lorsque vous abordez une mise en scène comme celle-là, là en l'occurrence c'est Copernicus. Copernicus, c'est un rite de passage entre la vie et la mort. C'est un rite de passage avec dans l'œuvre pas très connue de Claude Vivier, donc ce créateur d'opéra, une symbolique assez forte dont vous allez nous parler. Est-ce que ça signifie que vous avez quelque chose de bien précis en tête avant, Peter Sellars?
Oui, il faut dire que la musique de Claude Vivier, c'est pas du tout connu. Maintenant, grâce à le Festival d'automne, cet automne, on commence à entendre un peu ce compositeur méconnu et même perdu ici à Paris. Il était ici au fin des années, au début des années 80, peut-être aussi dans les années 70, mais c'est vraiment quelqu'un très bizarre, très pas du tout confiant, homosexuel, mais complètement transfixé par ça et à la fois un certain déni. Il était de trop et pas d'assez. C'était un homme
des conflits. Il a une vie assez compliquée. Et il est mort très jeune, assassiné par l'un de ses amants. Et au travers de ses obsessions, puisque c'est un enfant adopté, qui n'a pas été adopté tout de suite.
Il était orphelin toute sa vie. Et vraiment, à la fin, il était tué par une prostituée. C'était, mais à l'âge de 34 ans, mais c'était prévu déjà dans ses œuvres. C'est un peu comme Mozart qu'il passait ses dernières années déjà en préparant son propre mort. Et c'est comme avec le flûte enchanté. On dit, tous les personnages disent au revoir, plusieurs fois, constamment. Je pars. Également, Copernicus, c'est un rituel pour sa propre mort. Et déjà, ça contient toutes les choses qu'il n'a jamais entendues de toute sa vie. Les paroles, une chanson d'une mère proche. Il a jamais connu sa mère. C'est quelque chose qu'il fallait imaginer pour lui. Il fallait donc construire et écrire une musique qu'il n'a jamais écoutée dans sa propre vie. Et si on a besoin de cette chaleur, cet amour, cette projeté, il faut l'inventer, il faut le créer. Donc c'est une musique qui cherche, une musique qui a besoin, une musique avec une certaine faim, une certaine soif, un certain désir, un certain... donc le cœur déjà brisé, tout est ouvert et il y a un flot d'émotions complètement, pas des obstacles, plus des obstacles. Il faut dépasser tous les obstacles de la vie avec une musique qui coule, avec une générosité qui couvre le monde, qui peut inonder le monde avec amour, avec richesse, avec tendresse, avec une certaine présence spirituelle, illuminant, Voilà, c'est Claude Vivier. Il est grandi dans l'hiver, un hiver terrible à Montréal. Et il a découvert lui-même à Bali pendant 3 mois. Et moi aussi, je connais un peu les rituels de Bali. J'étais là.
Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ces rituels?
C'est en Bali, ils savent quand quelqu'un est prêt à mourir. 3 jours avant, il amène le gamelan et il commence à jouer la musique que votre grand-mère a besoin d'entendre avant qu'elle quitte ce monde. C'est une musique tendre pour soulager quelqu'un qui est en train de la douleur de mourir. Dans les 30 derniers jours, on a le gamelan là, on joue cette musique incroyable pour préparer la transition entre les mondes différents. Après le décès, on a encore 3 jours de musique qui est joué. Déjà dans le cercueil, le corps reste ouvert. Et chaque soir, on a toute la communauté qui vient avec les offrandes, avec le feu, avec les danseurs topeng qui, dans une position de l'esprit, qui parle avec les mots de la femme qui est décédée. Et elle peut s'adresser aux communautés. Les gens disent les choses qui ne pouvaient pas être dites pendant qu'on est vivant. Et les choses qu'il faut dire pour casser toutes les choses qui n'étaient pas correctes, pour soulager, pour guérir les choses qui sont encore toujours, qui donnent la douleur et qui prolongent la douleur. Il faut laisser tomber tout ça dans une atmosphère gentille, drôle, même ridicule, même aussi du transe. Une transe qui transporte le village et aussi l'esprit de femme décédée dans un bien-être et dans un équilibre profond des planètes, des astres, de quelque chose de plus grand que tout le monde. Donc, la façon de faire parler le au-delà, c'est ça qui concerne. Et bien sûr, après ça, pendant ça, les flammes commencent à dévorer le corps du décès. Et enfin, comme le mouvement des flammes, ça transforme ce qui est matériel à la lumière et la chaleur. Et puis ça disparaît. Donc, ce rituel transformant qui s'en occupe avec les derniers ans de Claude Vivier, qui s'en occupe. Et là, il a préparé pour lui-même une façon de sortir de ce monde où il était si laid et si pas confortable. Enfin, on lui donne un moment incroyable. On écoute pour 7 instrumentalistes et 7 chanteurs. Visionnaires de toutes les époques, rassemblez-vous. On est prêt pour recevoir quelqu'un qu'on aime, une bien-aimée, une bien-aimant, quelqu'un qui est précieuse, un trésor. N'aie pas peur. Vous êtes parmi des amis. Tristan vous attend, Isolde vous attend, la reine de la nuit vous attend, Mozart vous attend. Viens avec nous.
Je crois que les auditeurs entendent comment vous parlez à vos comédiens et à vos chanteurs, Peter Sellars, et on comprend la fascination que vous exercez sur eux. Copernicus, c'est un rite de passage et c'est aussi un nom de savant avec un rapport complexe à la science.
Oui, je crois que ce qui s'intéressait surtout Claude Vivier, c'est les gens qui sont capables de voir les choses invisibles des yeux humains. Où on peut regarder les mondes de au-delà, des mondes qui sont loin de nous, mais enfin qui nous entourent et enfin qui nous informent. Parce que bien sûr, nous sommes aussi les astres, nos avenirs sont déjà écrits dans le grand bouquin de la vie. Donc, je crois que Vivier préférait les gens, Einstein, Copernicus, Platon, qui s'en occupent avec les mondes invisibles, les mondes du bien. Surtout Platon, le bien, le monde des idées.
Et vous, votre monde invisible, à vous, parce que je sais que vous êtes très intéressé par les sagesses orientales, est-ce que vous croyez en ce monde invisible? Est-ce que vous croyez en la réincarnation?
Il faut dire que la plus importante présence dans nos vies sont souvent les gens pas visibles, mais bien sûr, on les tient chaque jour d'une façon très chère. On est toujours dans les conversations avec les gens décédés, les gens qui sont pas ici ou qui sont pas encore ici, les enfants à venir. Ou bien on a une enfant de 10 ans, mais on pense à elle à l'âge de 20 ans, de 30 ans. Toujours quand on est avec un enfant, on pense pas simplement à ce moment, mais on pense à le futur. Ou on pense à, elle est comme ça ce matin, mais ça a quelque chose à dire, à faire avec quelque chose qu'elle a fait il y a 3 ans. Un moment qui revient et revient et revient et revient. On est toujours dans, comme disait le bouddhiste, dans les 30 ans. Le passé, le futur, le présent, c'est toujours ce présent, toujours simultanément. Et donc, c'est pas quand Jésus dit je vous donne la vie éternelle, c'est qu'on est toujours avec vos parents, on est toujours avec les grands-parents, on est toujours avec les grands-grands-grands-parents, on est toujours avec la petite fille qui n'est pas encore née. C'est toujours, on est avec ça tous les jours.
Qui sont les êtres invisibles qui vous accompagnent, Peter Sellars?
D'abord les comédiens.
Non, eux, ils sont visibles.
Non, mais aussi, bien sûr, après la répétition, on pense, on repense, on imagine, on reimagine. On est toujours en train de les discours, de discuter avec les présences dans la vie qui en amène. Chacun de nous emmène, on n'est jamais seul, on est toujours entouré des gens, on est toujours avec les gens dedans qui nous forment, qui nous challenge, qui nous permet d'être nous. Enfin, c'est incroyable ça.
C'est vous qui êtes incroyable, Peter Sellars. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. On va entendre les informations, l'actualité ensemble. Vous nous direz d'ailleurs juste après le journal ce que vous inspire la situation actuelle. Parce que pour vous, il y a une dimension politique,
oui,
dans l'opéra.
Disons, oui.
Ça. Et donc vous nous direz tout cela dans quelques instants. Il est 8h sur France Culture et très bon réveil à tous. Sur France Culture, nous sommes en compagnie de Peter Sellars, le metteur en scène. Peter Sellars, vous avez entendu cette chronique politique de Frédéric Seitz. Vous êtes américain, vous vivez à Los Angeles, vous mettez des opéras en scène un peu partout dans le monde, mais vous connaissez bien la France puisque vous y avez habité quand vous étiez jeune. C'est la raison pour laquelle vous parlez français. Vous étiez avec votre mère à l'époque et vous avez vécu de nombreuses années. Puis vous revenez régulièrement. Que vous inspire la situation aujourd'hui de la France?
Enfin, il faut dire que c'est un peu pareil aux États-Unis, qu'il y a une grande mécontentement. Bien sûr, et il faut être absolument. Nous sommes devant une crise capitaliste incroyable, et c'est une situation qui était déjà créée il y a 30 ans, et maintenant ça avance, et c'est absolument sans merci sur la plupart des gens de classe ouvrière, bien sûr, et aussi le reste de nous. Maintenant, on peut imposer le même structural adjustment qu'on a mis
les mêmes ajustements structurels.
Ajustements structurels qu'on a mis à Brésil dans les années 70. On peut dire pourquoi pas faire en Europe, pourquoi pas le faire aux États-Unis. Et on a les coupures de budget terribles et la qualité de la vie, ça chute. Et ici, c'est inimaginable en France. On dit oui, il y a des gens dans les rues à Sarajevo ou quoi, il y a 30, 20 ans. Mais maintenant, ici, bien sûr. Bien sûr. Ça, et donc, ce n'est pas une question de qui est correct. C'est simplement arrête et écoutez un peu quand même. Quand même. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes du tout.
Quand Barack Obama a été élu président des États-Unis, vous étiez très heureux de cette élection et vous en attendiez beaucoup. Peter Sellars, aujourd'hui, c'est un autre président qui gouverne aux États-Unis. Comment vous expliquez ce passage de l'un à l'autre ?
Enfin, je crois que M. Trump n'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours cette tradition aux États-Unis d'une qualité d'une férocité, une qualité absolument agacée et intolérante et dans une certaine colère. Ça, c'est, il y a une grande tradition de ça.
La colère, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui se met souvent en colère, qui est très agressif, et ça semble plaire à une partie au moins des Américains, Peter Sellars?
Je crois que on a toujours eu cette qualité anti-immigration dans toute l'histoire des États-Unis. Et bien sûr, c'est un pays, sa grandeur et sa tout ce qui est magnifique des États-Unis, ça appartient aux immigrés, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est un pays, mais sans précédent dans l'histoire du monde, parce que c'est un pays créé par les immigrés, les gens qui cherchent un futur, qui cherchent un avenir qui est autre, qui est différent, qui n'était pas possible où ils étaient avant. Donc, toute l'imagination des États-Unis, ça vient des imaginations des immigrés. Donc, pour moi, bien sûr, c'est triste de voir ces mouvements anti-immigration, et bien sûr, quand l'Europe se ferme vers ça, on se ferme vers un avenir. On se ferme vers les gens qui renouvellent tout ce qu'ils touchent, qui ont besoin de changer leur vie et les vies des gens autour. Donc, pour moi, cette motivation chez les immigrés, c'est déjà très, très profond. Et si quelqu'un a marché 3000 kilomètres pour être ici, ça témoigne d'une certaine motivation, ça témoigne d'une certaine endurance, d'une certaine volonté qui est fière et impressionnante. Donc, pour moi, c'est un peu triste de ne pas avoir un traitement égal à tous les gens qui arrivent ici pour aussi nous transformer.
Il y a en France le sentiment que l'élite, que les privilégiés, les dominants, bref, on peut appeler ça comme on veut, est déconnecté du reste de la population. Avez-vous ce sentiment-là pour les États-Unis ?
Souvent, c'est que Madame Clinton n'avait aucune idée qu'il y aurait des autres choses. Et on est si certaine qu'on est correct. Et donc, on n'écoute pas les autres. Et on n'écoute pas quelque chose qui, bien sûr, même si les gens ne s'expriment pas d'une façon très élégante, ils sont en train d'essayer d'indiquer quelque chose de très important. Et pour nous, dans le théâtre, bien sûr, ils disent qu'il faut écouter pas simplement les choses dites, mais les choses non dites. Mais parce que les choses dites, ça fait 10% de ce qui nous concerne. Et les choses pas dites, les choses qui ne sont pas encore dites, c'est les choses problématiques.
Alors revenons justement à l'opéra et au théâtre, mais continuons à parler de politique. Pour vous qui avez mis en scène Mozart, vous avez mis en scène notamment le Così fan tutte, il y a une dimension politique chez Mozart. Expliquez-nous laquelle.
D'abord, la façon de s'exprimer, pas simplement individuellement, mais dans le collectif. C'est vraiment Mozart qui a créé les duos, les trios, les quatuors, les sextuors, la possibilité comme pour vraiment montrer ce que c'était dans la période de siècle des Lumières. Bien sûr, on n'avait pas une situation égale. On peut voir inégalité n'importe où on regarde. Donc, c'était Haydn et Mozart qui a inventé le quatuor à cordes pour montrer une image de l'égalité. C'est quoi égalité, fraternité, liberté? Il faut vraiment montrer aux gens un vrai exemple qui est pas imaginaire. Donc, on a créé chez Mozart les quatuors, pas simplement pour les cordes, mais pour les êtres humains. Pour qu'un roi puisse chanter en même fois que sa femme, qu'un enfant, qu'un esclave. Et ils sont tous traités musicalement d'une façon égale. Ça, c'est vraiment bouleversant, c'est choquant, ça tient devant nous une possibilité pas encore réalisée dans la société. Et c'est pour ça que nous sommes les artistes, à proposer les choses qui sont impossibles, bien sûr, mais qui sont quand même nécessaires devant nous. Ça reste devant nous pour achever ce qu'on dit « I have a dream ». Les rêves sont là pour achever.
Qu'est-ce que vous avez comme rêve quand vous faites de la mise en scène? Donnez-nous des exemples de vos rêves, Peter Sellars.
Pour moi, créer de l'art, c'est trois étapes. D'abord, il faut imaginer le monde où on veut habiter. Deuxième pas, c'est de créer ce monde. Troisième, vivre là-dedans. Donc, je crois que, enfin, chaque jour, on peut faire mieux. Et on le sait bien. Et comme artiste, le fait qu'on peut faire mieux, ça c'est évident et bon. Il faut donc créer tout ce qu'on peut imaginer. Et il faut le courage, il faut bien sûr la discipline, et il faut la concentration, et il faut aussi l'écoute. Il faut la possibilité de travailler avec les autres. Et c'est là, dans ce projet Vivier, c'est ce qui est incroyable. On est devant cette musicien, cette chanteur qui écoute chacun l'autre avec une justesse. Et bien sûr, si on cherche la justice, il faut commencer par la justesse. Il faut être pas tête dans les nuages. Il faut être très, très présent pour les autres et avec les autres. Et sensible à toutes les choses qui bougent, visiblement, invisiblement. Et il faut avancer ensemble, doucement, avec énormément de générosité. Et pas simplement dire « moi, je souffre plus que les autres », mais le contraire. C'est que, bien sûr, on souffre tout. La crise de quelqu'un, c'est la crise d'une communauté. Donc, c'est la communauté à la communauté à réagir. Mais généreusement, parce qu'on a tous besoin de générosité. Et tout ce que nous avons, c'est parce que quelqu'un était généreux avec nous.
Quand vous mettez en scène l'opéra, par exemple, de Claude Vivier, auteur très peu connu, Copernicus en l'occurrence, un opéra qui a été très peu joué dans le monde, lorsque...
Presque jamais joué. Vraiment, c'est cette voix perdue qui nous intéresse. Bien sûr, on cherche toujours les voix perdues. Parce que dans une démocratie, il y a certains gens avec un micro tous les jours. Et bon, on les entend bien. Mais qui, on n'entend pas qui. Ça, c'est la question. Et pour nous, c'est la question de chercher les voix, même dans votre propre famille. Il y a des gens qui parlent constamment et les gens qui parlent jamais. Et il faut chercher les voix qu'on n'a pas encore entendues.
Quelle différence entre le fait, justement, de mettre en scène Copernicus de Claude Vivier, donc vous dites un opéra qui n'a jamais été joué, et mettre en scène le Così fan tutte, qui est probablement l'un des opéras les plus souvent joués dans le monde?
Je crois qu'avec certaines choses qui sont un peu trop exposées, il faut commencer de nouveau et dire que les choses qu'on connaît, on ne connaît pas vraiment. On connaît d'une certaine façon. Mais bien sûr, comme chaque être humain, ils ont des secrets. Les choses qu'ils n'ont pas encore partagées avec nous. Et même notre regard, c'est déjà le problème. Donc, comme avec les êtres humains. Et par contre, avec Vivier, c'est une grande... Là, on est devant les grands chefs d'œuvre. C'est une musique énorme, immense, et vraiment une musique qui durera à travers les siècles, mais qui était à le moment de quand il est sur Terre, c'était presque invisible. Et comme un peu avec les musiciens comme Bach, il écrivait pour les générations à suivre, pas pour sa propre génération. Et il y a souvent dans l'art les choses qui attendent leur moment. Et leur moment, c'est plus tard. On est prêt plus tard à entendre certaines choses. Mais à l'époque, c'était pas du tout possible de lui comprendre. Et pour moi, la récupération des choses qui étaient perdues, ça c'est un grand, grand, grand projet. Et très important pour chaque jour de dire, il y a quoi qui manque dans ce tableau. on regarde autour et qu'est-ce qui manque? Il faut en chercher.
Et alors, justement, et par rapport à cela, lorsque vous dites qu'est-ce qui manque, lorsque vous montez en scène cet opéra, vous dites qu'il y a quelque chose à transmettre. Vous êtes également un grand professeur. Vous enseignez notamment à UCLA, à l'Université de Los Angeles. Vous avez donné des masterclass un peu partout dans le monde. Votre rapport aux étudiants et votre souci de la transmission, comment il s'articule lorsque vous êtes, non pas metteur en scène, mais professeur, Peter Sellars?
Je crois que la prochaine la génération qui arrive a vraiment bien appris comment mentir. Et cette qualité menteur, c'est choquant. Et parce qu'on est capable de dire n'importe quoi à n'importe qui, parce que bien sûr, ça ne compte pour rien. Et donc, la qualité de chercher comment dire quelque chose qui est vrai, une vérité. Parce que nous avons un président qui ment tous les jours. Mm-hmm. Donc, c'est pourquoi donc, on a la vérité. On peut toujours inventer quelque chose qu'on veut inventer parce que c'est facile. Bien sûr, la vérité, c'est un peu plus difficile. Et le chemin est un peu plus lourd, un peu plus ça nous exige les choses. Et il faut être exigeant d'abord, mais tolérant à la fois. Donc, mes cours sont un vrai expériment, art comme action morale, art comme action sociale. C'est comment créer des choses avec des autres. C'est quoi la position morale, l'éthique, vraiment, de créer, d'imaginer. Ça peut être une qualité de mentir ou ça peut être une qualité de toucher une vérité. L'imagination en deux voies et deux directions, deux possibilités, bien sûr des autres, mais c'est quoi vraiment de dire des choses qui faut être dit, parce que nous des artistes, personne doit voter pour nous, et donc nous pouvons dire des choses difficiles que personne d'autre a la permission à dire. Ça, c'est très important, très important. Dire les choses qui ne sont pas populaires, que les gens ne veulent pas entendre. C'est ça le but d'être artiste. On n'a pas besoin...
Par exemple, donnez-nous des exemples de choses que les gens ne veulent pas entendre.
C'est presque tout.
Ils vont les entendre à 8h36.
Presque tout. Non, il faut toujours... seulement un ami très proche pour dire une chose difficile à vous. Et souvent, quand on fait les costumes pour les spectacles, on regarde dans les journaux les pages de société, hein? Et on dit, une certaine personne, on regarde dans la photo, la femme qui fait les costumes avec moi, elle dit, cette femme n'a pas une amie proche. Qui peut dire, mais ça ne vous va pas du tout. Il faut un ami très, très proche à dire les choses très difficiles. Et même comment parler avec votre père. Comment dire quelque chose à votre père qu'il ne veut pas entendre. Il faut aller doucement. Il faut être créatif. Il faut être généreux, gentil et même avec énormément d'amour pour dire quelque chose vraiment dur.
Mais alors, ça c'est étrange, parce que je disais tout à l'heure que j'avais assisté à la répétition de l'opéra que vous êtes en train de mettre en scène, Peter Sellars, et je vous ai trouvé incroyablement gentil, bienveillant, y compris lorsqu'il y avait une erreur. Quand vous voulez dire quelque chose à un acteur, parce que celui-ci ne joue pas comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous faites? Comment dites-vous? Est-ce que vous êtes toujours aussi bienveillant? Est-ce que...
Oui, ça doit être fait d'une façon... tendre, intime, privé, qu'on expose quelque chose, pas à une situation qui humilie quelqu'un. On ne peut pas être humilié. Et c'est ça, en France, aujourd'hui. Bien sûr, on peut voir les gens humiliés, qui bien sûr se fâchent, parce qu'on est humilié d'une situation où on n'arrive pas à vraiment soutenir la famille. On est très humilié. Et les gens humiliés, bien sûr, sont très, 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 très angoissés et donc fâchés et donc défensifs et donc tout. Donc, il ne faut jamais humilier un être humain. Il faut toujours trouver les modes de soutien qui sont invisibles. Parce que s'ils sont visibles, c'est aussi une autre humiliation. Humiliation. Il faut soutenir votre sœur d'une façon invisible. Qu'elle se sent libre, elle se sent sa propre confiance. Pas « je suis ici parce que je suis soutenu ». Non, le contraire. Et c'est même travailler avec des acteurs. Il faut les soutenir, mais d'une façon complètement invisible.
J'ai lu l'une de vos phrases où vous expliquiez, Peter Sellars, que lorsqu'il y avait une situation politique impossible, et aujourd'hui il y a beaucoup de situations politiques impossibles, il fallait aller chercher la réponse chez les Grecs. Parce qu'il y a chez vous un véritable attrait pour le théâtre grec. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Lorsqu'il y a une situation politique impossible, les Grecs ont peut-être la réponse.
Les Grecs, d'abord, ont proposé tragédie. Les choses qu'on ne fait pas bien. Les choses dont on n'est pas du tout fier. Les choses qui, enfin, devant, nous avons tous pas réussi. Parce que ce qui on est égal dans toutes les choses qu'on dont on n'a pas réussi. Le succès, ce n'est pas jamais égal, mais la faillite, c'est absolument, ça nous fait égal. Donc, on commence avec la tragédie, déjà. Et les choses, le suicide des jeunes, on n'a pas du tout solutionné ça, comme des individuels, comme des familles individuelles, ou comme une société. Si on commence avec ça, on n'est pas fier. On commence avec une certaine humilité. Et l'humilité, il faut commencer avec une certaine humilité tout d'abord. Et donc, c'est pour ça que les Grecs ont proposé la tragédie. Et les larmes, bien sûr, et la tristesse, c'est ce qu'on veut reprendre, parce qu'on sait qu'on n'a pas bien fait. Et on doit rentrer à ça, mais différemment. Et bien sûr, le souci des jeunes, ça ne peut pas être arrêté par une juge, par un congrès, par une chambre des députés. C'est quelque chose qui doit être pris par une communauté, mais doucement, délicatement. C'est ça les Grecs. Mais aussi, il faut dire, à ce moment, il faut d'abord un esprit de générosité. Mm-hmm. Et c'est à ce moment, avec tous les coupures de budget, avec tous les taxes, avec tout ça, c'est pas généreux. C'est pas une attitude généreuse qui nous informe. Et bien sûr, on a inventé le théâtre pour vraiment être dans un terrain partagé.
L'une de vos méthodes, l'une de vos pattes, Peter Sellars, c'est d'avoir, dit-on, dépoussiéré le théâtre, autrement dit d'avoir fait entrer de la modernité dans des mises en scène, avec les polémiques inévitables que cela suscite. Vous avez été viré, par exemple, d'Adélaïde en Australie.
Viré constamment, c'est voilà. Mon privilège, oui, vous comme artiste. Non, mais dans le business, on ne peut pas être viré tous les jours. Pour un artiste, c'est très important d'être sûr un moment difficile, dangereux, avec tous les risques. On a le droit de prendre les risques comme un artiste. Et on peut mettre un exemple des risques. Et qu'est-ce qui reste dangereux de nos jours? Et c'est dangereux comment? Et quand c'est le courage et quand c'est la folie? Ça, c'est la grande question devant nous. Comme un artiste, je peux chaque jour, je peux tester ça. Je peux mettre à l'épreuve. Et si on ne fait pas ça, on ne fait rien. Et aussi, pour les chanteurs, c'est comme les Olympiques. Pour les instruments, c'est comme les Olympiques. On fait des choses très, très difficiles, dangereuses, les aigus impossibles. comme dans les Jeux olympiques, quelque chose qui personne n'a jamais fait avant. Mais il faut toujours casser les limites de toutes les choses qu'on a fait déjà pour aborder des choses qu'on n'a pas encore faites.
Et alors justement, lorsque vous essayez d'aborder des choses qui n'ont jamais été abordées, lorsque vous essayez de dépoussiérer, je ne sais même pas si le terme d'ailleurs vous convient, lorsque vous modernisez un opéra, est-ce que vous dites qu'il faut le dépoussiérer ?
Oui, non, mais pour moi, c'était jamais une question de modernisation. C'est, je peux que parler pour mon génération. Je ne sais pas ce que c'était le 18e siècle. J'étais pas là. Et je suis ici. Donc, je commence avec les choses que je peux constater la vérité de ça, de ça, de ça, l'authenticité de ça, une sensation que je sens moi, que ma sœur sent elle. Et là, on commence avec tout ce qui est autour et on commence à travailler avec ça d'une façon qui amène une imagination pour la possibilité. C'est toujours comme Aristote. Aristote disait que la poésie, c'est plus important que l'histoire parce que l'histoire, c'est ce qui est passé. Mais la poésie, c'est ce qui est devant nous et reste possible et reste ouverte.
Qu'est-ce qui reste, justement, vous dites, ce qui reste devant nous? Il y a Claude Villiers et son opéra Copernicus que vous êtes en train de mettre en scène. Vous allez le jouer à Paris, mais ensuite le spectacle tournera au Capitole, autrement dit à Toulouse, le 11, 12 et 13 décembre, puis au Nouveau Théâtre de Montreuil du 17 au 19 décembre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Quelles sont les mises en scène que vous avez envie de mener à bien, Peter Sellars?
Il faut dire, avec Vivier déjà, c'est un chemin inattendu et surprenant. Et d'abord, dans un moment de colère mondiale, d'avoir une musique si tendre et si... qui berce un peu l'angoisse de ce monde avec une touche complètement délicate, ça c'est déjà une contribution. Moi, je voyage dans le désert de Gobi deux fois, dans Chine de l'Ouest, deux fois par an pour les caves bouddhistes pour chercher vraiment une possibilité de, entre le 5e et 9e siècle, 500 caves sont créées dans un oasis dans le désert. Je vais le suivre, le piste là, et on va commencer à créer des choses parmi les cultures, parmi les géographies, pour faire des projets collaboratifs profondément. Le monde en a besoin.
Peter Sellars, Claude Villiers, l'auteur de l'opéra que vous êtes en train de mettre en scène, Copernicus, est dans le cadre du Festival d'automne. Ça sera joué au Théâtre de la Ville, hors les murs, autrement dit à l'espace Cardin, du mardi 4 au samedi 8 décembre à Paris, puis donc, comme je l'ai dit, à Toulouse et à Montreuil. Vous restez avec nous.